ville de découverte? Tu veux être informé de tout ce qui se passe dans la ville de Québec et sur les ondes chiziennes? Visite le www.chiz.ca. Tu y trouveras critiques musicales, palmarès, nouveautés culturelles, informations, nouvelles sportives et l'écoute en direct. C'est un rendez-vous au www.chiz.ca.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
De la réveillère Zinchard, boisé sur le slide, la musique zag.
Si ça nous tue, pourquoi on recommence?
Écoute locale avec Chiz 94.3.
Cinéma, showbiz, les nouvelles internationales et surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.chiz.ca. Digan lo que digan, somos la numéro uno.
Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur les ondes de Chiz 94.3 pour cette toute première édition hivernale 2022 d'Un phare dans le midi, votre quotidienne d'actualité. C'est comme toujours Guillaume Bédard qui est avec vous au micro en ce lundi le 10 janvier 2022, début de session ici à l'Université Laval. J'ai l'honneur, le plaisir et l'extrême joie d'être en compagnie aujourd'hui de Naïmé Ramalia pour cette émission. Allô Naïmé, comment ça va?
Ça va bien, toi, Guillaume?
Ça va très, très bien, très, très bien. Entre autres parce que en ce début de session, en cette nouvelle émission, on a quand même plusieurs sujets à couvrir. Oui, on va parler beaucoup de santé, on va parler beaucoup de COVID-19. C'est sûr que ça, c'est un sujet qui fait beaucoup jaser. On sait qu'on est présentement en plein dans plusieurs mesures. Écoutez, on fait même de la radio avec des masques. On est rendu là. Mais on a également beaucoup de peur parce que le délestage niveau 4 s'en vient dans plusieurs nouvelles régions du Québec. On vous explique où est-ce que ça se passe, qu'est-ce que ça veut dire également. On va vous parler un petit peu d'enjeux sociaux. On va vous parler d'itinérance beaucoup. Aux vagues de grand froid qui vont s'en venir. C'est très dangereux, c'est très inquiétant. On vous en parle. On parle d'autres enjeux de société. On va faire une petite chronique. On va parler des opérations sur les enfants intersexes. C'est un gros dossier qui a été dévoilé dans Le Devoir. Puis toi, Naïmé, on sait que ça, c'est un sujet qui t'intéresse beaucoup. Fait qu'on va pouvoir en jaser un petit peu. On va parler également de politique, d'économie, d'environnement, de nouvelles internationales. Tout ça et bien plus sur les ondes de Chiz 94.3, Un phare dans le midi, votre quotidienne d'actualité. Mais avant toute chose, on va commencer comme il se doit en chanson et en musique. On va aller écouter Diptyque de Wouf Wouf.
T'as un beau CV. Un beau CV. T'es beau à croquer, beau à croquer, yeah. T'es bon à marier, mais je suis déjà casé. Je souhaite trouver l'année prochaine. parle, cette chanson-là. Je sais pas du tout de quoi ça retourne. C'est flou, c'est lent, c'est lancinant. C'est lent, c'est lent, sans bon sens. Bon, ça doit parler de quelque chose de grand.
Bienvenue à tous et à toutes. Vous êtes toujours à l'écoute d'Un Fort dans le Midi, votre quotidienne d'actualité sur les ondes de Chiz 94.3. C'est toujours Guillaume Bédard qui est avec vous en compagnie de Naïmé Ramalia. On était en train d'écouter Diptyque de Wouf Wouf et on va plonger directement dans le vif du sujet. On va s'en aller en santé. On va commencer avec un petit sujet quand même assez intéressant. On va parler des opérations sur les personnes intersexes, particulièrement sur les bébés intersexes. On a eu un article du Devoir qui est sorti ce matin qui nous dit qu'il y a eu plus de 3300 opérations sur les organes génitaux des enfants depuis 2015. Naïmé, tu nous as lu ça ce matin. Peux-tu nous faire un petit résumé de ce que dit l'article, un petit tour d'horizon de c'est quoi l'enjeu exactement?
Ben oui, ben premièrement, on parle dans l'article de mutilation génitale.
C'est fort comme terme. On part fort.
Exactement. c'est vraiment des groupes militaires là, qui ont sorti ce terme-là. Mais il y en a plusieurs là, dans l'article qui vont un petit peu dénoncer la terminologie parce que sur les 1300 opérations, il y en a plusieurs qui étaient strictement, d'un point de vue médical, là, nécessaire. Mais on va là-dedans parler aussi... où est-ce qu'on joue avec la ligne, c'est les enfants qui sont intersexes à la naissance où c'est presque le parent qui va choisir le sexe de l'enfant, qui va choisir s'il y a lieu ou non une opération.
Oui, ou pire encore, le médecin qui va choisir et qui va ensuite dire aux parents, ben votre enfant, c'était pas clair exactement qu'est-ce qu'il y avait entre les jambes, fait qu'on a choisi pour vous. Et ça, c'est une situation qui peut avoir des répercussions plutôt compliquée à l'adolescence, à l'âge adulte, quelqu'un qui se rend compte que son genre, son identité de genre, se sentir homme, femme ou juste quelque part entre les deux, ne correspond pas avec son corps et se rendre compte que ça, c'est dû non seulement à de la dysphorie de genre, comme les personnes transgenres, mais simplement parce que quelqu'un a pris une décision médicale lorsqu'elle était bébé. C'est assez spécial quand même comme situation.
Tout à fait. Même, je dirais qu'on passe d'un discours où c'est un médecin qui pense seulement là, aux conditions médicales à un discours où on considère déjà à l'adolescence, ça va être quoi l'identité de la personne, ce qu'on peut pas savoir finalement.
Non, mais c'est vrai que on ne peut pas le savoir et c'est ça qui est le grand débat en fait parce que en droit de la famille quand on pense à aux problèmes de garde entre autres quand on pense aux problèmes de pension alimentaire, l'argument qui revient toujours c'est l'intérêt de l'enfant et dans plusieurs débats de société, la DPJ aussi a été mise sur pied pour l'intérêt de l'enfant, sauf que dans des cas comme ceux-ci, d'un enfant qui naît intersexe, c'est quoi l'intérêt de l'enfant? Est-ce que l'intérêt de l'enfant, c'est d'être normalisé, entre gros guillemets, le plus possible pour fitter dans des cases arbitraires homme-femme, quitte à devoir faire des réajustements plus tard? Ou est-ce que l'intérêt de l'enfant, c'est de respecter cette intersexualité-là, quitte à plus tard dire « ben non, finalement, je suis pas dans le milieu, je suis homme » ou « non, je suis femme ». Où est-ce qu'on s'en va? C'est quoi l'intérêt de l'enfant? Est-ce que c'est d'être comme tout le monde ou est-ce que c'est d'être unique? Et ça, c'est une grosse question, là.
C'est des grosses questions ce matin. C'est certain là, qu'il y a beaucoup de cas là, où on va penser seulement là, on va penser vraiment à ce qui est unique là, médicalement. Donc, on va vraiment prioriser l'intérêt de l'enfant pour sa santé. Mais là où c'est plus important, là, c'est quand on parle de chirurgie irréversible, ce qui est strictement à éviter quand c'est possible, bien sûr.
Oui, effectivement, parce que juste on pense justement à ces différents cas-là d'une personne qui peut-être se sent intersexe, qui s'identifie comme étant intersexe et qui subit une chirurgie irréversible en bas de l'âge de 2 ans, ben elle n'est pas consciente de cette chirurgie-là et elle va devoir dealer avec les conséquences de ça toute sa vie. C'est assez rough quand même. C'est vraiment assez spécial. Écoute, c'est vraiment un dossier qui est très, très intéressant pour voir, pour entendre un petit peu plus le point de vue des médecins, le point de vue des parents. On vous encourage fortement à aller directement lire l'article du Devoir, Jessica Nadeau, dans le Devoir ce matin. Plus de 1300 opérations sur les organes génitaux des enfants depuis 2015. C'est assez intéressant. On va continuer dans les enjeux de société à Un Phare dans le Midi, votre quotidienne d'actualité sur les ondes de Chiz 94.3. On va s'en aller parler un petit peu, étonnamment, de météo. Mais attendez 2 secondes, là, ça a un lien. On va parler de météo et de sans-abri. D'abord, la météo, il fait fret. Si vous n'êtes pas encore sorti dehors aujourd'hui, je vous l'apprends, il fait fret. Il fait présentement moins 19 températures ressenties ici à Sainte-Foy, à l'Université Laval, moins 13 températures réelles. Et ça va continuer de dégringoler comme température. Environnement Canada a envoyé une alerte de froid extrême partout au pays. Ça débutait cette fin de semaine dernière en Saskatchewan, au Manitoba. Ça devrait se terminer là-bas. Sauf que ça veut dire que ça s'en vient par ici. On parle de moins 38 avant refroidissement éolien. À Montréal, à Québec, on parle de moins 40-45 en Abitibi, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, ce sont les deux seules régions du Québec qui ne sont pas touchées par ces alertes de froid extrême pour la nuit prochaine et la suivante. Eh bien, c'est pour la simple et bonne raison que eux autres, ça va être après. Ça va être le lendemain ou le surlendemain. En attendant, il devrait y avoir un blizzard, une tempête hivernale. On parle de plusieurs centimètres de neige d'accumulation supplémentaire en Gaspésie avant ce froid extrême. Donc, va faire fret quand même. Ça va être assez intense et c'est là que le dossier des itinérants rentre en jeu parce que, Naïmi, on a des problèmes pour les accueillir. On n'a pas la place présentement pour les accueillir dans les centres à Montréal. C'est ça qu'on apprenait ce matin dans la presse, dans le journal de Montréal. Il n'y a pas assez de place et ça risque de faire des drames. C'est ça qu'on comprend en lisant le journal ce matin. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi, ça me fait peur un petit peu.
Mais ce matin, tu me parlais qu'on aurait besoin de 200 personnes 24 heures 7. C'est beaucoup. Mais j'ai un peu d'espoir aussi, là, si on regarde par rapport à la population de Montréal. 200 personnes, peut-être pas si pire, mais je pense que ça prend surtout de la mobilisation puis de la responsabilisation. Là, c'est un cas qui pourrait vraiment virer extrême là, si on laisse les choses aller sans accompagnement.
Oui, effectivement, parce que ce qu'on apprend de la plume de Clara Loiseau dans le Journal de Montréal, c'est que la mission Old Brewery tire la sonnette d'alarme alors que le nombre de cas positifs grimpe en flèche dans la communauté itinérante et qu'il manque cruellement de ressources pour les accueillir. Donc, on le cite directement Émilie Fortier, qui est directrice des services au campus Saint-Laurent de la mission Old Brewery. Avant la COVID, avant les éclosions actuelles, on manquait déjà de place. Mais là, avec plusieurs milieux en itinérance qui sont en éclosion, c'est extrêmement préoccupant. On parle de gens qui cohabitent dans les dortoirs, par exemple, ou dans des milieux plus petits. Donc, la transmission communautaire est extrêmement rapide avec le variant Omicron. Dans les derniers jours, il y avait une cinquantaine de personnes dans trois ressources qui ne pouvaient pas être admises en zone d'isolement. Donc, ce sont des organismes communautaires qui ont dû s'improviser une zone rouge ou mettre ces gens dehors pour protéger le reste du groupe. Écoute, on entend ça, il y a des cloches qui sonnent un petit peu partout, c'est fort inquiétant. Un organisme communautaire qui s'improvise une zone rouge, tu fais comme « Ouh! » Ça va mal, ça va pas bien, mais si on doit sortir des itinérants à la rue dans la nuit prochaine, la nuit suivante, que ce soit à Montréal ou à Québec, s'il fait moins 38 avant le vent, les chances qu'il y ait quelqu'un qui meure sont réelles. Elles sont fortes, elles existent, et que si en plus ce sont des personnes qui sont sorties dehors de ces lieux d'hébergement parce qu'elles sont infectées par la COVID-19, qui est une maladie qui touche le système respiratoire. Elles sont affaiblies, elles sont plus fatiguées. C'est des risques incroyables. C'est des risques énormes pour ces personnes-là. J'ai peur. J'ai vraiment peur. Ça me fait penser au cas qu'on avait vu l'année dernière de cet homme inou qui était mort, je me souviens plus de son nom, Monsieur André, je me souviens plus de son prénom, mais qui était mort dans le froid, dans la rue, parce qu'à cause de la COVID, on avait fermé, on avait diminué les capacités d'accueil. Écoute, là, à Montréal, ils ont reconverti l'hôtel Chrome au centre-ville pour avoir de la place pour augmenter le nombre de places, sauf que même ces hôtels-là, il est surpeuplé, il y a trop de gens. C'est très, 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 très inquiétant. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire. C'est quoi la solution qu'on a à ce problème-là, Naïmé? Donne-moi un petit peu d'espoir, quelque chose.
Ben, je pense que définitivement, là, avoir l'urgence du problème, je pense que la solution va un peu de soi, c'est de le traiter comme une urgence aussi. Faut pas non plus dire là, qu'il y a des personnes plus importantes que les autres. Là. À ce moment-là, on voit bien là, que c'est des personnes qui sont en danger. Faut les traiter comme telles, là, tout simplement.
Oui, effectivement, on a une étude du Canadian Medical Association Journal qui est rapportée par Lilia Dussault de La Presse qui nous apprend que les personnes en situation d'itinérance ont 20 fois plus de risques que la population générale d'être hospitalisées en raison de la COVID-19, 10 fois plus de risques de se retrouver aux soins intensifs, 5 fois plus de risques de mourir. C'est vraiment des statistiques qui sont très, très, très inquiétante. Donc, si jamais vous voulez donner un coup de main, vous pouvez appeler au 514-940-5216 pour la mission Old Brewery. À Québec, on sait aussi qu'on a des problèmes d'itinérance. On avait, lors du dernier recensement, 550 personnes à Québec qui sont en situation d'itinérance. Et en ce moment, l'objectif premier, c'est de leur trouver un toit, simplement. Juste avoir quelque part où ils puissent loger, avoir quelque part où ils puissent être, ça va être la priorité définitivement. Il y a un article de Marc Allard dans Le Soleil, une percée dans la lutte à l'itinérance à Québec. Très, très intéressant si vous voulez aller lire ça ce matin. On va prendre une petite pause musicale. On va écouter Pâte à biscuits de Bon Enfant, juste remonter un petit peu le moral. Et on vous revient tout de suite après avec d'autres nouvelles en santé. On va vous parler un petit peu de COVID. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça, le délestage? Vous écoutez toujours Un fort dans le midi, votre quotidienne d'actualité sur les ondes de Chiz 94.3.
Débarqué dans ma tête et
Vous écoutez toujours Un Fort dans le Midi, votre quotidienne actualité sur les ondes de Chiz 94.3. C'était Bon Enfant qui nous interprétait Pâte à biscuits. C'est toujours Guillaume Bédard qui est avec vous au micro en compagnie de Naïmé Ramalia. On s'en va directement en COVID-19 en actualité de santé. Et Naïmé, tu nous as les chiffres du jour.
Et oui, dans les dernières 24 heures, on reporte 118 nouvelles hospitalisations et 26 décès, en plus de 10 573 nouveaux cas de COVID-19 déclarés avec les tests.
Oui, et ça, c'est ceux qui sont déclarés avec les tests du gouvernement. C'est les personnes qui sont allées se faire rentrer le Q-tip bien profond dans le nez. On ne parle pas dans ces 10 000 cas de toutes les personnes qui ont eu des tests positifs simplement avec un test rapide. On se rappelle que théoriquement, les gens qui ont un diagnostic positif à un test rapide ont l'obligation d'aller se faire tester par le gouvernement dans des centres de dépistage. Mais le problème, c'est que les centres de dépistage, des fois, débordent et n'ont pas de place. Donc, les 10 573, c'est un minimum de nouveaux cas qu'on a au Québec présentement.
Et oui, et en ce moment, il y a 2554 personnes hospitalisées en raison de la maladie, dont 248 aux soins intensifs, ce qui est une diminution de 9 par rapport à hier.
Bon, ça, c'est peut-être la seule bonne nouvelle de comme, ce tapon de chiffres-là. On a un tout petit peu moins de personnes aux soins intensifs, mais le fait qu'on ait 118 hospitalisations supplémentaires, 26 décès à déplorer, 26 décès à déplorer, c'est vraiment énorme. Tout au long des mois d'octobre, novembre, décembre, on avait une moyenne d'environ 2,3 décès par jour, si je me souviens bien. Citez-moi pas là-dessus, mais c'est à peu près dans ces eaux-là. Fait que là, 26 décès aujourd'hui, on est vraiment ailleurs. En termes de chiffres, on se rapproche de la première vague de COVID-19. On se rappelle que durant les 3 premiers mois de la pandémie, on a 4000 personnes qui sont mortes au Québec uniquement. C'est vraiment des chiffres qui donnent froid dans le dos, qui donnent des sueurs froides. Mais on peut pas faire autrement. Avec autant de personnes qui sont hospitalisées, 2554 personnes hospitalisées. On se rappelle que la capacité théorique d'hébergement du Québec en termes d'hospitalisation pour la COVID, c'était 700 personnes. On était à 700 personnes, on est rendu à au-dessus de 2500. On a besoin de 4 fois. En fait, 3,5 fois la capacité d'hospitalisation du Québec juste pour la COVID. C'est débile. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens dans nos hôpitaux présentement. Et c'est ça qui mène le gouvernement à s'en aller au niveau maximal de délestage, le niveau 4. Qu'est-ce que ça veut dire, ce niveau 4-là de délestage? Ça veut dire que jusqu'à 80% des opérations chirurgicales pourront être reportées en conservant les urgences. 80% des opérations chirurgicales, c'est beaucoup! C'est vraiment, vraiment, vraiment beaucoup! On parle de repousser, entre autres, des accouchements. On parle de déplacer des accouchements pour diminuer le nombre de salles disponibles, le nombre, en fait, de secteurs. Le nombre d'hôpitaux qui ont des secteurs disponibles pour l'obstétrique. On parle de reporter des chirurgies cardiaques mineures non urgentes. On parle de reporter des soins pour le cancer. Donc, tout ce qui n'a pas besoin d'être fait dans l'immédiat est repoussé. C'est assez énorme et on a cinq nouvelles régions qui bascule dans cette zone 4. Donc, on avait déjà l'Estrie et Mauricie-Centre du Québec qui étaient en zone 4 de délestage. Eh bien, maintenant, la Montérégie au complet passe dans cette zone 4 de délestage. On a Montréal qui devrait bientôt y passer. On a Laval, Lanaudière et les Laurentides. Tout ça passe en zone 4 de délestage. Plus proche de chez nous, juste l'autre bord du fleuve, en Chaudière-Appalaches, ça n'est pas encore passé en zone 4 de délestage, mais on comprend pas pourquoi, parce qu'ils dépassent leur capacité de lit de beaucoup. Donc, ils vont avoir besoin normalement de plus de lits et vite, entre autres à cause des différentes éclosions qu'il y a présentement en Beauce. L'Outaouais également devrait passer bientôt en zone 4 de délestage. On a fermé l'urgence de Saint-André-Avelin pour que le personnel médical puisse aller prêter main forte à l'hôpital de Papineau. Ça ne va pas bien présentement dans notre réseau hospitalier au Québec. Imagines-tu, juste deux secondes, tu travailles dans un hôpital et on te dit non, on va fermer cet hôpital-ci parce que l'autre hôpital d'à côté a besoin de plus d'infirmiers, a besoin de plus de docteurs, a besoin de plus de préposés aux bénéficiaires. C'est intense, là. On est vraiment en plein milieu d'une crise et ça frappe de plein fouet définitivement. On a également un article du Soleil qui nous... En fait, de la Tribune, donc le journal de Sherbrooke qui nous est pitché ici à Québec par le Soleil. Donc Marie-Christine Bouchard dans la Tribune qui nous apprend que le délestage, ça veut également dire qu'on coupe tous les services sociaux. Donc, tous les employés du secteur des services sociaux dans les hôpitaux se font couper leurs services. Donc, il n'y a plus, par exemple, de services pour les parents d'enfants autistes. Il n'y a plus de services sociaux pour les personnes atteintes de déficience intellectuelle. Il n'y a plus de services sociaux pour toutes ces clientèles à risque-là, simplement parce que tout le système de santé physique prend la priorité, prend le dessus. On va prendre tous les bras qu'on peut pour mettre sur ce problème urgent-là. Mais je sais pas. Si je regarde dans ma petite boule de cristal, Naïmé, tu me diras ce que t'en penses, mais j'ai l'impression que ça va causer des problèmes d'ici un mois, deux mois, trois mois, très rapidement. Juste le fait de couper ces services-là, ça va avoir des répercussions importantes.
Mais déjà qu'il y a des répercussions importantes sur les communautés plus vulnérables, c'est certain là, qu'il y a des problèmes qui s'en viennent, mais j'ai l'impression qu'on choisit d'échanger un problème contre un autre, finalement.
Oui, effectivement, c'est sûr que on dit on fait des choix qui sont très difficiles. On va prioriser une chose plutôt qu'une autre. On va voir qu'est-ce que ça va donner. C'est vraiment juste ça qu'on peut faire en ce moment. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Pour l'instant, on fait juste dire la situation est critique dans nos hôpitaux. Il y a de plus en plus d'hospitalisations. Il faut trouver de la place quelque part pour mettre ces gens-là. On en parlait plus tôt dans l'émission. Pour ce qui est des personnes en situation d'itinérance, c'est déjà critique. Montréal, Laval, Laurentides, Lanaudière, Montérégie, Outaouais, Estrie, Centre du Québec, Mauricie et Chaudière-Appalaches. Tout ça, c'est critique. Donc, Québec, ça va encore pour l'instant, mais c'est quand même pas des bonnes nouvelles, entre autres parce qu'on reçoit des patients depuis Chaudière-Appalaches, parce que Chaudière-Appalaches n'est plus capable de supporter son propre poids. C'est sur cette note un peu sombre qu'on va aller en pause publicitaire et musicale et on vous revient tout de suite après avec d'autres nouvelles. On va changer les idées un petit peu. On va aller parler d'environnement, d'économie ici sur les ondes de Chiz 94.3. Vous écoutez toujours un fort dans le midi, votre quotidienne d'actualité.
Les enjeux de santé te préoccupent? À ta santé, c'est ton émission de radio qui t'en apprend davantage sur la santé globale en te faisant découvrir des experts, des professeurs, des étudiants et des travailleurs passionnés. Entre Planète et Stéthoscope, rejoins-nous un jeudi sur deux à 13h sur les ondes de Chiz 94.3 et en balado-diffusion sur www.chiz.ca.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Vous ou un proche vivez avec une perte de vision? Peu importe où que vous soyez dans votre cheminement, la Fondation INCA est là pour vous. Que ce soit des formations en technologie adaptée, des groupes d'entraide, des activités éducatives pour les jeunes ou du soutien à l'emploi, nos programmes gratuits permettent aux personnes touchées par la perte de vision de vivre la vie qu'elles ont choisie. Visitez inca.ca ou appelez-nous au 1-800-465-4622.
Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur les ondes de Chiz 94.3. C'est toujours Guillaume Bédard qui est avec vous au micro en compagnie de Namimé Ramalia en ce lundi 10 janvier 2022. On s'en va parler d'environnement, d'économie ici à Un Fort dans le Midi, votre quotidienne d'actualité. Mais avant, écoute, on cherchait des bonnes nouvelles. On cherchait des bonnes nouvelles à vous dire après une première moitié d'émission plutôt sombre, on va dire ça ça comme ça. On a une bonne nouvelle pour vous. Il y aura 3 millions de tests rapides dans les pharmacies du Québec dès demain matin. Donc, allez voir sur Clic Santé si jamais la pharmacie près de chez vous en aura de disponibles. Sinon, se pointer à l'ouverture est une bonne solution. Il y aura donc 600 000 ménages supplémentaires qui vont pouvoir avoir accès à ces tests rapides. On se rappelle qui viennent en pack de 5. On rappelle également que si votre maison en a déjà, il en reste chez vous, on vous demande de ne pas aller en chercher pour la simple et bonne raison que, ben justement, il y aura uniquement 600 000 foyers qui vont y avoir accès. Donc, laissez la chance à d'autres, laissez la chance à ceux qui n'y ont pas encore eu accès en priorité. Donc voilà, c'était la petite bonne nouvelle qu'on avait pour vous. On va aller en économie et en environnement. D'abord en économie, une nouvelle assez assez spéciale. On va parler du groupe Rising Phoenix, qui est un groupe qui contrôle plusieurs collèges privés à Montréal, qui ont fait les manchettes l'an passé et l'année d'avant, parce que ce sont des cégeps privés anglophones montréalais qui se spécialisent dans le recrutement d'Indiens, de personnes venant d'Inde, en leur promettant essentiellement une citoyenneté canadienne après une attestation d'études collégiales au Québec, en anglais, un cours de quelques semaines en informatique, qui serait une passerelle rapide vers la citoyenneté canadienne et qui charge des prix on va dire exorbitant. On parle d'environ entre 28 000 et 30 000 $ pour un cours de quelques semaines pour une attestation d'études collégiales. je sais pas, Naïmé, toi, t'as payé combien pour tes cégeps, mais certainement pas 30 000 piastres.
Quelque chose comme 200 par session.
Quelque chose comme 200 par session. Beaucoup plus raisonnable. Fait que 30 000 piastres par tête de pipe, c'est vraiment énorme. Donc, ils étaient pas particulièrement hauts dans l'opinion publique, ce groupe de cégep-là. Eh bien, aujourd'hui, on apprend que Rising Phoenix se met à l'abri de ses créanciers. Donc, se place sous la protection de la loi sur la faillite. Et va essayer de vendre, de liquider ces différents collèges parce qu'il y a plusieurs poursuites, plusieurs différents, des poursuites qui, mises ensemble, on parle de 633 étudiants qui demandent des remboursements pour un total de 6 390 000 $. Et ça, c'est sans compter ceux qui n'ont pas encore fait de poursuite pour demander leur remboursement. Donc, on a 6 390 000 $ en poursuite contre ce groupe-là pour ces Indiens qui veulent avoir remboursement parce que soit ils n'ont pas obtenu leur citoyenneté canadienne telle que promis par la publicité, soit parce que ils n'ont pas pu suivre leur cours à cause de la COVID-19. Donc, tout ça se mélange au fait que en plein milieu de la pandémie, le groupe Rising Phoenix avait décidé d'acheter et de bâtir un nouveau centre collégial en Outaouais, en plus de ceux qu'ils possédaient déjà, et de payer ce nouveau centre collégial à même son fonds de roulement annuel. Naïmé, toi, t'es un petit peu plus business que moi dans la vie. À quel point c'est une mauvaise idée?
Ça dépend. Pour une entreprise qui prévoit faire faillite, très bonne idée.
C'est ça, c'est assez surprenant en fait comme décision. Moi, je vois ça d'un point de vue complètement extérieur, ça me surprend beaucoup. Fait que si tu pouvais juste expliquer un petit peu qu'est-ce que ça veut dire exactement, cette décision d'investissement-là.
C'est sûr qu'une entreprise qui décide de charger autant pour un service qui ne le vaut pas tant que ça peut probablement se le permettre à même ses fonds. Ceci étant dit, quand on parle d'expansion, on va parler d'investissement assez facilement. Donc, ça devient plus facile de vendre son projet à une banque puis d'obtenir des fonds. Ceci étant dit, c'est facile d'avoir des fonds quand le quand l'investissement se tient, quand le plan fait du sens. Donc, dans ce cas-ci, c'est pas très surprenant qu'ils l'aient fait à même leur fonds, et encore moins surprenant que maintenant ils se protègent leurs créanciers.
Bon, donc, bref, cette entreprise-là va pas bien. C'est probablement la fin de cette saga-là. On sait que ça avait beaucoup fait réagir quand c'était sorti dans les différents médias, cette histoire de ce collège privé qui vendait des citoyennetés à rabais, essentiellement. On continue en économie. Le prix du bois repart à la hausse. Le prix du 2 par 4, le bois d'œuvre, c'est encore à la hausse. On se souvient que ça avait été un des sujets chauds l'été dernier, l'été d'avant également, la construction de maisons qui en avait pris pour son rhume parce qu'on a une augmentation de la demande des maisons neuves. On sait que ça fait partie des tendances lourdes depuis le début de la pandémie. Les gens ne veulent plus vivre au centre-ville, ne veulent plus vivre très collés. Ils veulent avoir leur espace. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire plus de maisons. Tu combines ça à la crise du logement qui fait que le centre-ville n'est plus abordable, ben, les gens vont aller plus loin, vont s'étendre plus loin. Donc, encore une fois, plus de maisons. Et là, en Colombie-Britannique, la Colombie-Britannique, pendant 10 ans, a surexploité son bois pour une raison de maladie du bois. Donc, essayer d'exploiter la forêt avant qu'elle perde de la valeur. Ben, maintenant, cette période-là est terminée et donc ils peuvent continuer à baisser leur production. Donc, moins de production, plus de demande. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait exploser, encore une fois, le coût du bois. Donc, en date du 17 décembre dernier, le prix du 2 par 4 atteignait 1 260 $ par 1000 pieds planches. Donc, ce que ça veut dire, c'est très cher. Vraiment très, très cher.
Même au-delà de ça, l'année passée, on parlait d'entrepreneurs qui avaient fait des soumissions pour la construction, qui ont dû changer leur prix suite à la hausse des prix. Là, que, si je me souviens bien, l'année passée, il y avait certains matériaux qui avaient complètement doublé de prix, ce qui change le prix d'une soumission là, éventuellement. J'ai l'impression qu'on pourrait peut-être s'attendre à quelque chose de similaire cette année si le prix continue de monter.
Oui, effectivement, mais cette montée des prix-là, ça fait juste augmenter les inégalités économiques au pays entre ceux qui peuvent se permettre de devenir propriétaires et ceux qui ne le peuvent pas. Et quand on sait que les prix des logements augmentent, les prix des loyers augmentent, eh bien, ne plus être propriétaire devient de plus en plus coûteux, sauf que, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens de faire ces économies-là. Donc, c'est vraiment une situation qui devient de plus en plus intenable et c'est assez triste de justement voir que la solution vers laquelle on semble se diriger, c'est plus d'étalement urbain, plus d'expansion du territoire habité, alors que on sait que l'étalement urbain, c'est très mauvais pour la planète, entre autres parce que ça demande plus de déplacements, plus de transports, ce qui demande plus de combustion de gaz à effet de serre, plus de construction de routes, plus de construction d'autoroutes, ce qui est très, très, très polluant. Écoute, on a Radio-Canada qui nous relaie à un article d'Agence France-Presse qui nous dit qu'on a un réchauffement climatique record sur les 7 dernières années. Donc, 2021 n'était pas l'année la plus chaude. C'était la 5e année la plus chaude enregistrée jusqu'à date. Mais quand même, les 7 dernières années sont les 7 plus chaudes enregistrées sur l'histoire de la planète. On est quelque part entre 1,1 et 1,2 degrés Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle. L'accord de Paris dit qu'il faut limiter jusqu'à 2100. Il faut qu'en 2100, on soit en bas de 2 degrés Celsius, si possible en bas de 1,5 degrés Celsius, on est déjà entre 1,1 et 1,2. Il n'est plus minuit moins une, il est minuit et quart. C'est ça la nouvelle qu'on a aujourd'hui par rapport à ça. On a un réchauffement catastrophique et même si 2021 n'a pas été une année qui a été particulièrement chaude, c'est une année dans laquelle les conséquences des réchauffements climatiques s'est particulièrement fait sentir. On a eu des feux de forêt dans l'Ouest canadien, dans l'Ouest américain, dans le sud de l'Europe, des énormes feux de forêt. On a eu des inondations catastrophique. On se souvient, en décembre, on en parlait, en Colombie-Britannique, à Terre-Neuve, des inondations qui sont dévastatrices. Une des solutions proposées à ça, ce serait pour l'Ontario. On a un article qui nous parle de ça, de Mo de Cucci Radio-Canada. On aurait une des solutions à ça, ce serait étonnamment l'énergie nucléaire. C'est surprenant, parce qu'on sait que tout le long du 20e siècle, tout le long des années 1900, l'énergie nucléaire, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup fait peur. On se souvient de Tchernobyl, on se souvient de Fukushima. Fukushima, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Des accidents nucléaires, ça peut avoir des conséquences très, très graves. Cependant, l'énergie nucléaire, c'est la seule énergie qu'on soit capable de produire présentement qui ne fait pas de gaz à effet de serre, qui ne produit pas de gaz à effet de serre. Même l'énergie éolienne en produit un mini peu. L'hydroélectricité sur laquelle on est si dépendante, de laquelle on est si fier au Québec, oui, ça en produit beaucoup moins que les combustibles fossiles, le pétrole, le charbon, mais on en produit quand même, entre autres parce que on inonde d'énormes zones, on détruit des écosystèmes pour bâtir ça. Donc, c'est assez polluant quand même. Ça a une certaine pollution. Parlez-en aux Inuits et aux Cris. Ça a une certaine pollution quand même, bâtir des grands barrages comme ça. Donc, la solution pourrait potentiellement être l'énergie nucléaire. Et c'est ce qui est prévu par le plan de l'administration Ford. C'est de bâtir et en fait de construire une usine à réacteurs nucléaires en Ontario pour être capable de construire plusieurs mini-réacteurs à vendre et à exporter. Pour chaque mini-réacteur serait suffisant pour alimenter un village ou pour alimenter une petite ville. L'idée étant de disperser la grille énergétique, d'être moins dépendant d'énormes centrales très très loin et qui vont devoir faire transporter l'énergie sur de très longues distances. Donc peut-être que le nucléaire, qui ne produit aucune émission de gaz à effet de serre, pourrait être une solution par rapport à ça. On va voir. C'est vraiment un plan présentement qui a été proposé par le gouvernement ontarien. On va voir qu'est-ce que ça va donner pour l'instant. On va terminer cette section environnementale avec un dossier qui est beaucoup plus proche de chez nous. On va se déplacer dans le magnifique quartier de Limoilou, ici à Québec, parce qu'on a Félix Lajoie pour Le Soleil qui nous apprend que l'air de Limoilou est 4 fois plus pollué que celui de Montréal. C'est assez important, ça, comme statistique. Donc, selon les données rendues publiques par la table citoyenne Littoral Est, les résidents de Limoilou respirent 4 fois plus de nickel que les Montréalais. Donc, on se souvient que présentement, dans l'air du Littoral Est, c'est un projet, la zone d'innovation du Littoral Est, communément appelée la ZIL, est un projet du port de Québec, du gouvernement du Québec, pour créer un espèce de techno-quartier, prendre une zone riveraine et développer des industries, des nouveaux logements à même cette zone-là et étendre la capacité d'accueil, la capacité de conteneurs du port de Québec, entre autres. Et c'est pour ça que on a ce débat-là présentement sur la concentration de nickel dans l'air à Limoilou. C'est parce que tout ce nickel-là, il vient pas de nulle part, il vient directement du port de Québec. On a, selon les chiffres qui sont disponibles, la concentration de nickel à Limoilou s'élèverait à 12 nanogrammes par mètre cube, alors qu'à Montréal, on parle d'en moyenne 2,6 nanogrammes par mètre cube. C'est énorme comme différence. C'est vraiment, vraiment, vraiment énorme. Et la réaction du gouvernement présentement par rapport à ça, ce serait de augmenter à la limite. Juste dire, ben la limite permise va être plus haute maintenant. On va dire que c'est moins grave si on augmente la quantité de nickel dans l'air. On parle de repousser la limite à une moyenne annuelle de 20 nanogrammes par mètre cube et une moyenne journalière de 70 nanogrammes par mètre cube. 70 nanogrammes par mètre cube, c'est vraiment énorme. Comme c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de nickel. Donc, c'est ce qui pousse la conseillère municipale de Limoilou, chef de Transition Québec, Jackie Smith, à s'opposer fortement au projet de la zone d'innovation littorale Est. Et on la cite directement. J'encourage les citoyens et les citoyennes à se mobiliser et je demande à Bruno Marchand, maire de Québec, de se positionner clairement contre cette hausse de la norme sur le nickel qui touche particulièrement la population de la ville de Québec. Le chef de l'opposition à l'hôtel de ville, conseiller du district de Maizeray-Lairet, également dans le coin de Limoilou, Claude Villeneuve, a également voulu s'exprimer sur le sujet. On le cite. Les citoyens sont pas fous. Avec le temps, les gens du milieu ont développé une expertise sur le sujet et de la qualité de l'air et sont très attentifs à leur environnement. Nous avons de bonnes raisons d'être préoccupés dans Limoilou et nous allons faire nos devoirs pour que cette modification réglementaire ne passe pas. Donc ça, c'était les propos de Claude Villeneuve, chef de l'opposition officielle à l'Hôtel de Ville. C'est quand même un gros dossier. C'est un dossier qui est très, très, très chaud présentement. Ce dossier de la zone d'innovation littorale Est. Si vous voulez en savoir plus, allez voir la table d'action citoyenne littorale Est. Ils ont vraiment beaucoup de chiffres comme ça. Ils essayent de faire sortir les données les plus possibles. Donc, allez vous informer si vous êtes particulièrement si vous êtes dans le coin de Limoilou. C'est très, 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 très important. On va terminer cette émission en parlant un petit peu de nouvelles internationales parce que on en a beaucoup aujourd'hui. Premièrement, on a encore le dossier de la vaccination. Même si aujourd'hui, on a appris que... en fait, c'est à partir d'aujourd'hui que les 40 ans et plus vont pouvoir recevoir leur troisième dose de COVID, de vaccin contre la COVID-19. Eh bien, on a encore plusieurs pays. On a 41 pays qui ont une couverture vaccinale de moins de 10 %. Donc, il y a moins de 10 % de la population qui ont reçu au moins une dose de vaccin dans 41 pays. 98 pays ont moins de 40 % de taux de vaccination. C'est vraiment très, très faible. Et la raison principale pour ça, c'est parce que les vaccins ne sont pas libres de droit. Les vaccins ont une propriété intellectuelle. Ça ne peut pas être n'importe qui les fabrique. C'est Pfizer, c'est Moderna, c'est AstraZeneca, c'est Johnson & Johnson qui ont le droit et en fait le monopole sur leurs vaccins. Et ça contrôle la quantité qu'on est capable de fabriquer, ce qui veut dire que ça contrôle la quantité qu'on est capable de donner à la population mondiale. Donc, l'Organisation mondiale de la santé propose de lever le droit d'auteur sur ces vaccins-là, mais c'est pas encore fait, simplement parce que ben, les compagnies s'y opposent fortement en disant ben, « comment est-ce qu'on va faire notre argent? » On parle d'investissement équivalent à environ 10 milliards d'euros pour le développement du vaccin, ce qui sont compensés principalement par les droits d'auteur, par la fabrication du vaccin en monopole. Si ce vaccin-là n'est plus fabriqué en monopole, il n'y aurait pas ces milliards et milliards et milliards de profits. Donc, c'est sûr que les compagnies ne voudraient pas les perdre. On va se déplacer en Europe Parce que en Suisse aujourd'hui, les Russes et les Américains se rencontrent. Donc, la diplomatie américaine et la diplomatie russe, les deux se rencontrent aujourd'hui pour parler de sécurité européenne, d'Ukraine. On sait que la Russie a entassé ses troupes le long de la frontière ukrainienne. Ça fait peur à plusieurs. Plusieurs ont peur d'une guerre présentement en Ukraine. L'Ukraine qui veut faire partie de l'OTAN, l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, essentiellement la coalition, l'alliance américaine, l'alliance militaire américaine. La Russie refuse que l'Ukraine fasse partie de cette coalition-là. Donc, c'est sûr que avoir cette discussion diplomatique-là alors qu'il y a autant de troupes russes amassées à la frontière, c'est très, très, très inquiétant. On va terminer l'émission en parlant encore d'armée un petit peu, mais on va parler de l'armée norvégienne parce que on a une nouvelle de l'Associated Press qui nous apprend que l'armée norvégienne demande aux conscrits de rendre leurs sous-vêtements. Donc, en Norvège, le service militaire est obligatoire pour une période de 18 mois, d'entre 12 et 19 mois, pour autant les hommes que les femmes. Et à cause du taux de roulement si haut dans l'armée norvégienne, eh bien, les conscrits de Norvège ont reçu l'ordre de rendre leurs sous-vêtements, soutien-gorge et chaussettes après la fin de leur service militaire afin que le prochain groupe de recrues puisse les utiliser. Écoute, toujours des bonnes nouvelles, toujours des idées de recyclage. Au moins, ils produisent pas plus de vêtements. C'était sur cette note-là que va se terminer votre édition du 10 janvier 2022 d'Un Fort dans le Midi, votre quotidienne d'actualité sur les ondes de Chiz 94.3.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Sur une distance de 20 mètres, la coupe Vanier au bout du pied.
C'est la main! Balle frappée solidement par White du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants!
Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3.